Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Ce matin, c'est dur. Les corps souffrent après sans doute la nuit la plus chaude de la semaine, la fin de cette canicule espérée dimanche, mais des orages arrivent déjà par l'ouest. On va faire un point complet. On va vous raconter dans ce journal ce tragique guet-apens mortel à Narbonne, où un jeune de 17 ans a été tabassé à mort. Et ce double séisme aussi de forte magnitude cette nuit au Venezuela. Le premier bilan est lourd, au moins 32 morts.
On vient sans doute de vivre la nuit la plus chaude de la semaine.
Oui, Géraldine vient de le dire, à 6h ce matin, il faisait déjà 27 à Nantes, 26 à Paris, la capitale, où la température a mis un temps fou à descendre sous les 30 degrés. Bref, nuit importante, nuit infernale, et c'était pareil ici à Étampes, écoutez.
Celle-là, elle était dure. Franchement, elle était dure par rapport aux anciennes. Je dormais peut-être un quart d'heure, 20 minutes, je me réveillais, je me rafraîchissais, j'essayais de me rendormir, etc. Il faisait 31 et demi chez moi, donc c'était dur. Je me sens fatigué et là, je manque de sommeil.
C'est catastrophique. On n'a pas dormi, j'ai un bébé à la maison, il n'arrive pas à dormir, le pauvre. On a pris 3-4 fois de douche à chaque fois. Et voilà, on essaye de faire avec ce qu'on a à la maison, un petit venti qui tourne tout seul, comme ça. Et voilà, on ne dort pas.
On fait comme on peut et on ne dort pas. Donc vous l'entendez ce matin au micro de Martin Bourdin pour RMC à Étampes. Alors à l'instant, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, annonce que la canicule a fait des victimes, a fait des morts dans la capitale, mais sans donner plus de précisions, sans donner de chiffres. Hier soir, c'est la préfecture du Pas-de-Calais qui déplorait 3 morts de la chaleur dans ce département. Ce matin, il y a donc toujours 72 départements en alerte rouge pour la canicule. Mais Météo France dit déjà que 11 départements de l'Ouest en sortiront dans la soirée. Géraldine, est-ce que ça veut dire qu'on voit enfin le bout du tunnel?
Ah, effectivement, le Nord-Bretagne, la façade atlantique vont être les premiers à avoir baissé les températures, donc ils devraient sortir à 22h de la vigilance rouge, mais pour repasser en vigilance orange pour la canicule. Demain, on devrait par exemple repasser sous les 30 degrés à La Rochelle, donc oui, on voit le bout du tunnel, même si pour la plus grande partie du pays, il faudra quand même attendre dimanche seulement pour pouvoir respirer. Et si on va voir ces températures baisser, c'est parce qu'on va avoir de violents orages. 10 départements en vigilance orange d'ailleurs pour ces orages. Il faudra être particulièrement prudent à partir de 16h sur les Côtes d'Armor, l'Ille-et-Vilaine, sur la Manche, et puis à partir de 18h pour l'Aquitaine, les Hautes-Pyrénées et le Gers. On attend de violentes rafales de vent à plus de 100 km/h et de la grêle et des dégâts qui risquent d'être importants, notamment avec une végétation fragilisée par la canicule.
Et alors à ça s'ajoutent les feux de forêt, risque élevé dans 48 départements, très élevé même dans deux autres, les Deux-Sèvres et la Haute-Garonne, ce qui est rare pour une fin de mois de juin. Et il y a encore tout un tas de conséquences, notamment dans les transports. La plus notable, c'est en Nouvelle-Aquitaine, Luc Allobert. Aucun TER aujourd'hui entre 10h et 18h, ce sera pareil demain pour préserver le matériel, c'est ce que dit la SNCF.
Oui, et dès hier, les trains ont été mis à rude épreuve. De nombreuses annulations et retards dans la région, de quoi faire vivre une journée de galère pour beaucoup de voyageurs, comme à Agen.
Votre train à destination de Bordeaux-Saint-Jean est supprimé en raison des conditions météorologiques. C'est pénible, là, ça devient pénible.
Il a fallu que j'appelle mon père à la rescousse pour qu'il vienne me chercher, parce que sinon, j'avais pas de solution.
C'est pour éviter que ces scènes ne se reproduisent que la circulation des TER a été aménagée, priorité aux heures de pointe, le matin et le soir. Une décision sage, vu les conditions, selon Christian Broucaret, président de l'association d'usagers FNOT Nouvelle-Aquitaine, mais il craint que les galères ne se multiplient pour les voyageurs.
Les gens, ils viennent de travailler, ils vont à la fac, ils vont à l'école. C'est une contrainte de prendre un train plus tôt et de rentrer plus tard. La voiture, ça coûte cher. Il faut rentrer dans la ville, il faut stationner.
Ces contraintes sont les conséquences directes du manque d'investissement sur le réseau, selon lui.
C'est l'État qui est propriétaire du réseau. Donc l'État n'a pas mis l'argent et on en paye les conséquences dans des conditions extrêmes comme aujourd'hui.
Au total, plus de 100 000 personnes voyagent chaque jour en TER dans la région Nouvelle-Aquitaine.
Alors, quelles conséquences sur l'économie avec cette canicule? Le patron des mousquetaires, Thierry Cotillard, sera l'invité d'Apolline tout à l'heure à 8h30 sur RMC. Et l'INSEE dira dans la journée quelle est l'ampleur de la dette au premier trimestre de cette année. Chiffre important puisqu'on est actuellement en pleine préparation du budget 2027. Cette nuit, je vous le disais, la Terre a tremblé de l'autre côté de la planète, au Venezuela. Deux séismes très puissants, coup sur coup, des images impressionnantes. Les États-Unis proposent déjà leur aide d'ailleurs. Un premier bilan très lourd, Romain Houck, fait état ce matin de 32 morts et plus de 700 blessés.
Oui, c'est un bilan encore très provisoire qui risque bien de largement s'alourdir. Tant les images qui nous parviennent de la capitale Caracas et sa région sont impressionnantes. L'aéroport international est gravement endommagé, des bâtiments complètement écroulés dans des nuages de fumée et de poussière. Un bruit assourdissant, des habitants pris de panique tentant de fuir les immeubles qui s'effondrent, et désormais les secours et des bénévoles qui s'affairent dans les débris à la recherche de survivants. Un film d'horreur, des scènes de guerre, disent déjà certains témoins. Il était 18h à Caracas hier soir, minuit à Paris, quand ces deux secousses successives se sont produites à moins d'une minute d'écart, des séismes d'une magnitude de 7,2 et 7,5, une très forte intensité. Le tremblement de terre a même été ressenti jusqu'à Bogota, la capitale colombienne, pourtant distante de 1000 km à vol d'oiseau.
Je vous signale que les recherches reprennent ce matin à Biarritz, au lendemain de l'impressionnant effondrement d'un pan entier de falaise qui a tué une plongeuse qui se trouvait là dans l'eau au pied du phare à ce moment-là. Un autre plongeur est toujours porté disparu ce matin. 5 jeunes viennent d'être mis en examen et placés en détention à Narbonne après la mort d'un autre jeune de 17 ans. C'était en fin de semaine dernière. Histoire absolument abominable. Pierre Bazin du service police-justice à RMC. Ce jeune a été victime d'un guet-apens sur un chantier.
Oui, les images sont insoutenables à regarder. Un déchaînement de coups de pied, de coups de poing dans la tête et sur le corps complètement inerte de Louis, 17 ans, un jeune homme placé auprès de l'aide sociale à l'enfance. Pendant de longues minutes, il subit l'acharnement d'au moins 4 personnes. Puis l'adolescent est abandonné au sol dans une cave en travaux. Il n'est découvert que le lendemain par un ouvrier pris en charge par les secours dans un état très grave. Il décède à l'hôpital. 5 suspects sont rapidement identifiés à partir des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Ils ont été mis en examen hier. Selon le procureur de la République de Narbonne, de nombreux éléments laissent penser que les faits étaient prémédités et qu'un guet-apens a été tendu au jeune homme. Mais à ce stade, on ignore les raisons de ce déchaînement de violence. S'agit-il d'une vengeance ? Existait-il une rivalité entre la victime et l'un des suspects ? C'est ce que l'enquête va devoir déterminer.
On y voit de plus en plus clair ce matin dans le tableau final de la Coupe du Monde.
RMC, radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Brésil, Maroc, Mexique, Afrique du Sud, Suisse, Canada et Bosnie aussi en tant que meilleur troisième sont assurés de jouer les 16e de finale en attendant les 6 matchs de la soirée de la nuit prochaine et en attendant aussi les Bleus demain soir contre la Norvège sous la houlette, vous savez, de Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, avec sûrement des changements dans le 11 de départ, Valentin Jamin.
Oui, au moins un changement par ligne alors que les Bleus n'ont que 4 jours de récupération. Aucun risque à prendre. Le défenseur central William Saliba, gêné au dos depuis des semaines, doit souffler et être suppléé par Maxence Lacroix qui va découvrir la Coupe du Monde. À sa droite, Malo Gusto, le joueur de Chelsea, est attendu à la place du titulaire Jules Koundé. Et au milieu, le madrilène Aurélien Tchouaméni n'est plus blessé et doit permettre à Adrien Rabiot, qui a tout joué, de se reposer. En attaque, les 3 stars, Dembélé, Olise et Mbappé, qui a marqué 4 buts, devraient être associés à un autre Parisien, soit Doué, soit Barcola. C'est bien Didier Deschamps, rentré en France après le décès de sa mère, qui tranchera en fonction de ce que ressent sur place son adjoint, Guy Stéphan. En revanche, difficile d'imaginer le sélectionneur communiquer à distance avec le staff pendant le match dans cette période compliquée. Il doit revenir à Boston ce samedi.
Et puis, faut que je recommence. Faut que vous écoutiez l'ovation cette nuit. L'ovation... C'était pour Neymar. Neymar ovationné à Miami. Neymar qui est entré à un quart d'heure de la fin du match avec le Brésil durant la nuit. Le Brésil qui a gagné 3-0. 3 ans que Neymar n'avait pas joué avec son pays.
C'était donc le journal de Quentin Vinet.